c'est bon.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors, bonjour à tous les auditeurs d'Aligre FM. Nous sommes en direct samedi 5 avril 2025 sur 93.1 pour une nouvelle émission de Philosophie au présent, la voix du Collège international de philosophie. Dans le studio, avec moi pour animer cette émission, Michele Saporiti. Bonjour Michele.
Bonjour Stéphanie, quel plaisir de te voir.
Bon après-midi. Et une élève du lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés, Jolane Pellerin-Zang. Bonjour Jolane.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, pour nous parler de son dernier livre, La disparue du cinéma, nous avons l'immense plaisir de recevoir Laurence Mouillet. Bonjour Laurence.
Bonjour à vous.
Bonjour Laurence, bienvenue.
Merci. Alors, pour vous présenter, Laurence, j'ai envie de reprendre le portrait qui avait été fait de vous sur le site de votre éditeur, Mediapop Éditions, lors de votre premier livre, qui était donc un livre à la fois de photos et de textes, qui s'appelle Schlager Club, et dont on va reparler un petit peu plus tard, je pense. Alors, je cite. Enfant des 70s, Laurence Mouillet est née à Mulhouse. Partie pour explorer le monde, elle a trébuché et s'est finalement arrêtée à Strasbourg, où elle travaille pour une chaîne de télévision culturelle franco-allemande. Elle a aussi donné de la voix à la radio, réalisé un documentaire sur sa fabuleuse professeure de chant et fabriqué un clip avec des bouts de ficelle pour un chanteur curieux dans tous les sens du terme. Inlassablement à la recherche de l'image la plus vivante et du mot le plus juste, elle a conscience que sa quête est sans fin, à la différence de la vie qui, un jour, s'achève. Et c'est ainsi qu'elle avance, vaille que vaille, son optimisme mélancolique en bandoulière. C'est pas joliment dit tout ça. Voilà, donc aujourd'hui, vous écrivez pour Arte, donc la fameuse chaîne TV dont il est tes questions, comme conceptrice, rédactrice, donc l'écriture est ce qui vous fait vivre, mais à côté, vous écrivez aussi de la poésie, des textes pour accompagner des photos, des textes pour accompagner vos propres photos, c'est le cas donc de ce livre, ce premier livre Schlager Club, dans lequel vous suivez trois artistes peintres dans leur atelier. La photo, l'image sont donc très importantes pour vous. Vous avez écrit et réalisé un clip vidéo, Les belles structures, d'Arne Vinzon. Vous avez écrit et réalisé un documentaire poignant, Yolande Huiter, La voix vivante, sur une pianiste et professeure de chant, dans lequel vous interrogez le rapport entre la transmission et la voix. Et outre l'écriture, la photo, la vidéo, le cinéma documentaire, vous utilisez aussi votre propre voix, puisque vous avez fait beaucoup de radio chez FIP. Vous êtes donc une FIPette. Et accessoirement, vous avez fait aussi des études d'histoire de l'art. Bon, et donc aujourd'hui, vous êtes là, vous venez nous parler de votre premier roman, La disparue du cinéma, qui vient de sortir, là, c'est tout frais, en février 2025, chez donc votre éditeur Mediapop, et qui fait déjà du bruit, en particulier au sein de la communauté alsacienne. On va y revenir tout de suite. Donc Laurence, on vous remercie vraiment d'avoir accepté cette invitation, d'être venue faire un saut d'une heure à Radio Aligre, alors que vous êtes normalement en ce moment même au Salon international de l'édition indépendante qui se tient, je le dis pour nos éditeurs qui nous écoutent en direct, du 4 au 6 avril au Palais de la Femme, 94 rue de Charonne dans le 11e. Voilà, alors est-ce que déjà, Laurence, est-ce que cette présentation vous convient ?
Waouh, oui. Là, quand je vous écoute, je me dis, mais cette fille est une touche à tout. Donc là, je peux vous dire tout de suite que maintenant, je me concentre uniquement sur l'écriture. Voilà, c'est décidé. C'est dans l'écriture que je vais pouvoir explorer en même temps l'image, enfin, et tout ce qui m'intéresse.
Très bien. Alors, justement, notre émission a pour titre « La disparue du cinéma » de Laurence Mouillet ou « Comment la réalité se fait fiction ». Alors, avec ce premier roman, il est vraiment question de l'acte créatif, d'une fiction littéraire, même si le cadre, lui, est malheureusement bel et bien réel. Il s'agit du cas de Carole Prin, dont on trouve d'ailleurs de nombreux récits sur Internet, il y a eu des émissions télé. Bref, c'est l'histoire donc d'une jeune femme de 37 ans, enceinte, qui travaille dans un cinéma strasbourgeois, avec d'ailleurs son compagnon y travaille également, le père de l'enfant, et qui disparaît mystérieusement le jour où elle doit accoucher. Voilà, ça c'est le cadre. Mais la fiction commence justement avec le regard que va porter sur cette affaire Claire, une étudiante de 20 ans qui travaille au même endroit comme caissière. Et donc, alors qu'il s'agit d'une affaire terrible, le livre, lui, est très poétique et onirique. Hein. Il y a un énorme travail d'imagination avec soit des séquences de rêves, soit les mille et une hypothèses que se fait l'héroïne Claire. Alors, je ne sais pas si vous diriez les choses comme ça, mais est-ce que, en fait, voilà, je me dis, c'est pas un travail journalistique, c'est pas un simple témoignage sur un fait divers. Ce serait éventuellement un témoignage sur les émotions qui traversent une jeune femme pleine de promesses, confrontée à des contradictions, des désillusions. Finalement, à quel genre appartient ce livre ?
Alors, moi, je dirais que c'est un... Je le définis vraiment comme un roman initiatique. Mmh. Pour moi, c'est un roman initiatique dans lequel il y a un meurtre et du suspense. Simplement, ce n'est pas un polar. Pour la simple et bonne raison que le personnage principal n'est pas un enquêteur ou une enquêtrice, que ce soit de la police ou journaliste. Donc, je me suis beaucoup posé la question de savoir comment j'allais raconter cette histoire. Puisque peut-être la première chose à dire, c'est que le personnage principal du roman qui s'appelle Claire est vraiment mon double fictionnel. Parce que j'avais 20 ans, je travaillais dans ce cinéma, et ma collègue, donc, qui avait 37 ans, qui était sur le point d'accoucher, a disparu. Et cet événement a été pour moi, dans ma propre vie, mais comme pour d'autres personnes qui travaillaient dans ce cinéma, un choc, avec une onde qui s'est propagée, je pense, pour certains, assez loin. Et donc, je me suis toujours dit que j'allais faire quelque chose de cette histoire. Donc, voilà. Et donc, en même temps, moi, je ne suis pas une lectrice de polar. Donc, je me suis questionnée un peu pour savoir, mais dans la littérature, comment on parle de faits divers. Et j'ai pensé un peu à deux livres un peu emblématiques, qui sont « De sang froid » de Truman Capote, qui en 1965 donc, sort ce livre après y avoir travaillé pendant 5 ans. Et il invente en fait ce genre qui est le « true crime » et qui est l'enquête. Voilà, et c'est tout à fait nouveau. Et sauf que ce livre a vraiment détruit sa vie. Enfin, lui, il a fait effectivement une enquête sur cet horrible crime hein, de jeunes hommes qui assassinent toute une famille pensant trouver de l'argent. Et il entretient aussi une relation assez ambiguë avec ses tueurs. Il y a une fascination qui se met en place. Donc voilà, il y a ça pour le true crime. Après, j'ai pensé aussi au livre d'Emmanuel Carrère, qui s'appelle donc « L'adversaire », qui est assez célèbre, sur l'affaire Jean-Claude Roman. Et ce que je trouve vraiment intéressant chez Emmanuel Carrère, c'est qu'il il se questionne vraiment dans son rapport à son sujet ou à sa propre vie, qu'est-ce qu'il faisait au moment où Jean-Claude Roman assassine toute sa famille, etc. Mais il fait aussi une enquête, il retourne sur les lieux, il commence une correspondance donc avec ce criminel. Et je pense aussi qu'il y a une certaine fascination. Parce que quand même, dans le fait divers et dans ce genre d'affaires, enfin, le fait de s'y intéresser, c'est aussi une manière de questionner un peu le monstre en soi. Enfin voilà, ça c'était pour savoir comment raconter cette histoire. Et finalement, je me suis dit que le seul moyen pour moi de raconter cette histoire, c'était sous un angle extrêmement personnel, voire intime. Et donc, je me suis dit que voilà, j'allais prendre ce personnage que j'ai appelé Claire, qui pour moi est la clairvoyante, et qui
oui,
en fait qui est
sur les prénoms, oui,
animée, hein. Ouais. Mais en même temps qui a 20 ans, qui est dans une certaine solitude, énormément de questions, assez fragile, une précarité financière, elle ne sait pas trop vers quoi elle veut aller, etc. Et puis en même temps, elle est animée d'une très grande curiosité. Et cette curiosité, ça répond aussi à un besoin qu'on a, c'est face à un mystère, puisque un fait divers, c'est un mystère qui surgit dans le quotidien, ça crée une sorte de faille. Et c'est de se savoir, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Donc, pour donner du sens aux choses. Voilà.
Très bien. Bon, alors, Je continue sur ce thème aussi du réel et de la fiction. Hein, et effectivement, le propre de toute œuvre d'art, c'est de passer au-delà du réel pour mieux le rencontrer. Et Hegel, en ce sens, dit bien que le rôle de l'œuvre d'art, ce n'est pas d'imiter fidèlement le réel. Hein, le réel n'a absolument pas besoin de l'art pour exister. Hein, ce serait comme, un ver qui essaierait lamentablement d'imiter un éléphant. Et si vraiment, s'il s'agit d'exprimer quelque chose de réel, c'est l'émotion ou la pensée, le sens qu'on donne aux choses qui, lui, est vraiment réel. Et là, effectivement, dans votre livre, hein, on ressent des choses universelles, hein, comme le désarroi de Claire, son incompréhension, également son espoir aussi. Hein, et puis, y a aussi de l'humour, hein, il faut le dire aussi dans ce livre, beaucoup. Et donc, cette affaire de Carole Prin, la réalité, fonctionne comme un cadre, comme il peut y avoir dans chaque roman, un cadre historique. Hein, et ensuite, dans le détail des faits, moi je trouve qu'on abandonne quand même à la lecture assez vite la question de savoir qui dit quoi, est-ce que c'est vrai, qui est qui. Hein. On est pris donc dans ce livre avec des interrogations, hein, qui vont au-delà de cette affaire. Et à ce propos, j'aimerais vous lire un extrait du journal d'un écrivain en pyjama de Dany Laferrière, hein, qui est sorti en 2013. On doit danser sans se soucier de ceux qui nous observent. Pour écrire, il faut sauter à la corde avec ses phrases, ne pas hésiter à entrer dans l'action. Ça marche quand vous sentez qu'il n'y a plus que vous et l'écriture. On trouve son rythme en accordant la musique à sa nature profonde. Et c'est cela qui s'imposera au lecteur quand votre sujet n'intéressera plus personne. Alors effectivement, l'affaire Carole Prin, semble bouclée et la littérature prend le pas sur la réalité. J'ai l'impression que c'est quand même aussi le propre de tout roman. Alors est-ce que, Laurence Mouillet, est-ce que vous retrouvez un petit peu là-dedans, hein, et finalement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la conception de votre travail d'écriture? Parce que ce que j'ai cité, c'est un livre qui donne des conseils pour écrire aux écrivains. Hein, et voilà, donc quelle est un petit peu votre cuisine pour faire le roman?
Oui, alors effectivement, la question d'écrire à partir de la réalité, c'est une question qui se pose beaucoup. Mais bon, ce qu'on sait aussi, c'est que même si on veut écrire la vérité, ce sera de la fiction. Donc voilà. Et moi, mon idée, c'est que c'est vraiment d'essayer d'approcher une vérité par la littérature et en particulier par l'imaginaire. Et j'utilise tous les moyens de la fiction pour essayer de répondre à cette question qui est un peu immense, deux questions. Comment et pourquoi est-ce possible que cette femme ait été assassinée, enfin que cet homme a tué cette femme? Donc j'en profite, la petite parenthèse, je ne sais pas si vous voulez en parler plus tard, mais de cette question du féminicide.
Oui, c'était la prochaine question, mais on peut y aller.
Je vais peut-être continuer, on en parlera, je vais continuer sur cette idée de la petite cuisine, ou en fait cuisine. Des moyens, ou de la grande cuisine, les moyens de la littérature. Pour moi, c'était aussi ce cadre qu'est le cinéma que je trouvais absolument formidable. Parce que l'histoire se déroule dans un cinéma, ça aurait presque pu être un huis clos. Le cinéma comme le lieu du crime, éventuellement, ce qui n'a pas été prouvé. Mais le cinéma aussi en tant qu'esthétique et que genre. Et en fait, mon personnage de Claire, elle aime le cinéma et elle n'arrête pas de se faire des films. Donc c'est aussi en ça où je dis que cette histoire, je la raconte d'un point de vue très subjectif, puisque tout se passe dans l'imaginaire de mon personnage, qui va essayer d'imaginer comment cette femme a pu disparaître, comment elle a pu être assassinée. Même elle s'imagine qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de l'assassin, du frère jumeau de l'assassin, etc. Donc c'est vraiment des projections, et pour moi c'est vraiment ce moyen-là, puisqu'on ne saura, il y a beaucoup de parts d'ombre dans cette affaire, que c'est vraiment le seul moyen de se rapprocher d'une certaine vérité.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
C'est très intéressant, cette parenthèse qui regarde les secrets qu'il y a un peu dans votre écriture. Mais j'ai plusieurs questions à vous poser. Première question, Vous avez dit bien la question du cinéma en tant qu'esthétique, en tant que genre. Je trouve que il y a une sorte de cinéma dans les cinémas dans votre écriture. Une chose que j'avais dit à Stéphanie, c'est-à-dire qui est très très cinématographique, votre modalité d'écriture, presque à la façon d'un scénariste. Donc on s'image très bien les mouvements et tout ce qui se passe. Il y a une vraie attention aussi, à la lumière. Non, ils sont des choses qui sont dans une bonne école pour scénariste. C'est l'ABC, comme on dit, du métier.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et alors, première question que je vous pose, c'est pas seulement, disons, c'est rendre cinématographique quelque chose qui se déroule au cinéma, dans son mystère, qui se mélange à la réalité. Quelle est la composante, disons, de l'écriture comme scénariste en ce sens-là, dans cette recette que vous avez donnée à nos éditrices et nos auditeurs? Est-ce qu'il y a une composante majeure dans la modalité d'écriture qui parle au scénario, au scénariste, au public de spécialistes du cinéma?
Alors non, en fait, il n'y a pas vraiment de modalité. Je dirais que c'est dans l'écriture que j'ai trouvé cette forme. Mm-hmm. Pour moi, c'est très important, évidemment, la forme, le fond. Enfin voilà, la forme est importante et liée au fond. Et c'est vraiment en avançant que je me suis rendu compte que j'écrivais des séquences. Et aussi, comme j'ai vraiment cet amour du cinéma et j'aime beaucoup, en fait, j'ai l'impression, comme ce que je disais, c'est que j'ai un peu renoncé au reste, à la photo, etc. Oui. Et que là, c'est une manière de tout mettre dans l'écriture. Et je voulais vraiment décrire, effectivement, que le film se déroule sous nos yeux. C'est vrai que une écriture, je pense...
On voit tout, hein. Il y a des séquences, il y a des cuts,
il y a des fondus au noir, il y a absolument... Et ça s'est développé dans l'écriture, où ça me semblait... cohérent, enfin voilà, j'aimais.
Absolument, oui, c'est pour et, approfondir bien le.
Et après, il y a une chose aussi par rapport à ça, c'est que par rapport aux rêves, oui. Pour moi, les rêves, ça m'a permis d'aller aussi plus loin dans cette part de fiction, parce que ce que je trouve génial, c'est que bon, déjà, dans les rêves, il y a toujours des pas de côté, des choses illogiques, il y a des symboles. Donc ça, je trouvais ça très intéressant d'explorer ça. Et aussi, pour moi, c'est complètement lié au cinéma. Oui. Puisque, en fait, un film, c'est la réalisation d'un rêve d'un réalisateur. Vous voyez, donc c'est une sorte de mise en abîme de tout ça. Oui. Et c'est qu'en plus, le rêve, on sait que voilà, ça a un lien avec notre inconscient. Et que de savoir que le cinéma et la psychanalyse sont nés à peu près au même moment, hein, à la fin du 19e siècle. Et tout ça, ça m'a vraiment fait avancer avec toutes ces idées. Alors qu'ils ne sont pas, c'est pas un livre théorique, hein, c'est pas du tout un livre théorique. Je voulais tout incarner. Et donc, il y a la présence de ces rêves qui sont aussi comme des petits films.
Oui, qui nous aident beaucoup à suivre un peu votre pensée, en ce sens-là, votre trace. Et à propos, justement, du rapport entre la réalité, on dit, et la réalité et fiction, je voudrais lire un passage, page 43 de votre livre, et je vous demande la courtoisie de bien vouloir réagir. Alors, 43, alors on est avec Claire, donc la protagoniste, on peut dire ça, non, Claire, la clairvoyante, ok. Mais il y a aussi un personnage dont on va parler, j'en suis sûr que Stéphanie va aussi répondre à la question, que le personnage de Lionel. Alors, il y a des nuages encombrants en ce sens-là. Et alors, vous écrivez quelque chose qui nous fait réfléchir beaucoup, aussi d'un point de vue philosophique sur ces rapports-là. Alors, vous écrivez « Alors, il suffirait d'affirmer une chose pour qu'elle soit vraie. Il suffirait d'utiliser cette force de mots pour établir sa propre vérité. Est-ce que là, se cache le bonheur du menteur. Une rhétorique de pur plaisir, construire une histoire à sa convenance, la donner pour vraie, constater avoir été cru sur parole, être le premier surpris de ce miracle. Donc peut-être vous aurez aimé une voix plus française que la mienne, mais de toute façon, voilà, là nous trouvons déjà quelque chose. Oui. Pouvez-vous nous expliquer quel est votre... Ça, c'est une sorte de caméo, je ne sais pas si vous avez cette expression-là,
oui.
Mais d'une petite, disons, une petite manifeste de la relation entre vérité et fiction. Oui. Et parce qu'on est vraiment dans un temps, n'est-ce pas, chère Stéphanie, où la vérité et la fiction se mêlent, quelqu'un dit, chacun ses faits, chacun ses vérités. Et c'est quoi pour vous, Laurence ? Comment on va réagir?
Réagir au texte ou savoir que la vérité, oui, vous avez chacun raison. Sa vérité?
Non, réagir au texte, réagir au texte.
Mais chacun sa vérité, bien sûr. Mais alors, le texte, là, c'est parce qu'il y a beaucoup de questionnements. Claire se pose énormément de questions. Oui. Ce qui la distingue, en fait, de ses collègues qui travaillent dans ce même cinéma, c'est qu'elle met tout en doute. Parce qu'elle doute, parce qu'elle a affaire à Lionel, hein, qui est l'assassin, qu'elle soupçonne en tout cas d'être un assassin, ce qui n'est pas encore prouvé. C'est qu'elle a affaire à quelqu'un qui est vraiment ce qu'on peut appeler un manipulateur. Un manipulateur va tenir un certain discours, va s'adresser à chacun pour produire un effet. Et il va constater l'effet. Et Claire a été témoin déjà d'un mensonge de Lionel. Elle se méfie de lui, elle n'a pas confiance. Donc en fait, elle l'observe. Elle observe ce qui se passe. Et donc, elle observe ce que vous venez de lire, c'est-à-dire qu'elle réfléchit à ça, elle se dit, mais c'est quand même incroyable, parce que bon, elle dit, elle a déjà eu, elle a un peu menti comme un peu tout le monde, mais il y a certaines personnes qui pratiquent le mensonge comme...
Systématiquement.
Comme un... Oui, ça devient un art. Et c'est des choses, je pense, auxquelles les gens qui n'ont pas l'habitude de mentir enfin, ont du mal à appréhender ça.
Merci.
Je ne sais pas si c'est...
Non, c'était... c'était ça, disons. Et c'est le regard de Claire, et je passe la parole immédiatement à Stéphanie, c'est un regard percutant, un regard qui ne cesse pas d'interroger, de s'interroger en ce sens-là, de regarder, une fois encore, son vécu. Donc, il y a tous les doutes qui les philosophes aiment beaucoup, n'est-ce pas, chère Stéphanie?
La question du mensonge, elle parcourt toute l'œuvre. Hein, et un peu plus loin dans le livre, vous évoquez, sans le dire d'ailleurs, il me semble, hein, les paroles de Bachung, « La nuit, je mens ».
Hein. Absolument.
Ça fait écho aussi à cette chanson magnifique hein, d'un Strasbourgeois d'adoption, hein, Alain Bachung. Voilà.
Par rapport à la chanson, c'est vrai que ça se passe en 1995.
Ouais.
Donc ça, c'était assez passionnant d'explorer ça, de revenir, de revisiter ces années-là, dire mais c'était quoi avoir 20 ans, 1995, quels étaient les sons, qu'est-ce qu'on écoutait. Qu'il n'y avait pas de téléphone portable, donc on pouvait attendre chez soi pendant 3 heures un coup de téléphone. Enfin, c'était tous ces détails qui permettent de rendre vivante, enfin, je l'espère, une époque.
Alors, on voit tout au long du roman, ce personnage de Claire hein, qui est finalement toujours toutes antennes dehors hein, pour essayer de comprendre le monde. Et on sent que le sensible, le corps sont des choses très très importantes. Hein. Et du coup, tout le rapport à la nature, c'est-à-dire à la forêt, aux plantes, aux arbres, mais aussi aux quatre éléments, le vent, la mer, la lumière aussi est très importante. Et on sent, je trouve, dans votre livre, que le travail de l'écrivain est complètement incarné. Hein. Et pour illustrer tout ça, j'aimerais lire un passage qui m'a beaucoup plu, qui se trouve page 49, voilà, sur une description de Claire. Je cite « Claire nage. Elle nage la brasse, mue par le besoin impérieux de s'étirer, d'allonger ses muscles, de ressentir sa mécanique interne fonctionner, de sentir la plus petite des alvéoles de ses poumons expulser l'air vicié. L'eau effleure chaque millimètre carré de sa peau. Son corps entier est aimanté par une extrémité de la piscine. Son esprit, lui, est absorbé par lui-même. Elle fait des lignes, sur 25 mètres de long. Faire des lignes. comme avec sa machine à écrire portative reçue pour ses 10 ans. Des lignes sur papier blanc, de gauche à droite, gling, à la ligne. Voilà, alors je trouve que c'est une très belle image de l'écriture comme le travail d'une nageuse qui fait ses lignes. Donc j'ai envie de vous demander, est-ce que vous diriez que pour vous, la rencontre avec la nature, qui est quand même qui est récurrente, je trouve, dans le livre, bon là il s'agit de l'eau, hein, mais est-ce que il y a d'autres références, hein, est-ce que c'est un élément qui constitue une sorte de refuge pour cette jeune femme de 20 ans ?
L'eau en particulier.
L'eau ou la nature, la rencontre avec la nature. Et le rapport au corps pour penser tout ça, pour penser tout ce qui lui arrive. Il y a quand même ça commence très fort par une sorte de sensualité débordante, hein, et le rapport au corps, au sens, est interrogé tout le long et change et se modifie au fur et à mesure du roman, quoi.
Voilà. Absolument. Pour moi, c'était vraiment très, très important d'incarner les choses, c'est-à-dire. Toutes ces questions existentielles qui arrivent par le corps, c'est-à-dire par des sensations. Voilà, elle a 20 ans, c'est une jeune femme on n'est pas construit quand on a 20 ans. On peut être fragilisé. Là, il se trouve qu'elle est fragilisée par ce qu'elle vit. La réflexion vient après la sensation éprouvée. J'ai vraiment eu besoin d'explorer ça. Mmh. Et par rapport à l'eau en particulier, c'est vrai parce qu'on me l'a fait remarquer qu'il y avait beaucoup d'eau. Mmh.
Je pense à la Grèce, par exemple.
Oui, ouais, alors il y a la question, ouais. Absolument, là c'est la Méditerranée. Alors, parce que j'avais besoin aussi de mettre des choses sensuelles liées aussi à l'âge, hein, c'est-à-dire... voilà, ce rapport au monde aussi qu'on peut avoir. Et puis, j'avais besoin de mettre de la lumière, de la beauté, des sensations aussi agréables. Et l'eau, c'est aussi... l'eau, c'est la vie. Et donc, dans cette histoire qui est tellement sombre... Enfin, j'y ai pensé ensuite, quand on m'a fait remarquer qu'il y avait beaucoup d'eau.
Beaucoup d'eau.
Et donc, c'est vrai que c'est irrigué par des passages avec de l'eau. Et voilà, avant d'affronter en fait, les questions beaucoup plus sombres et de me confronter à la réalité de ce que c'est que d'assassiner, c'est-à-dire de comment on peut tuer et même se débarrasser d'un corps avec des questions très concrètes que je me suis posées. Et après, la nature, c'est vrai que c'est une manière de parler d'un rapport au monde aussi, hein. Comment on peut être dans un rapport qui est presque, enfantin, dans ce rapport à la nature où les choses ne sont pas forcément, ne se distinguent pas. On n'a pas encore forcément distingué nature et culture.
Ouais.
Enfin, c'est des choses qui passent aussi à travers les rêves.
Donc je pense qu'on reviendra dans une deuxième partie d'émission sur les questions plus sombres. Et peut-être très rapidement, il nous reste 3 minutes avant notre pause musicale, une petite question de Jolane pour Laurence.
En vous lisant, on a vraiment l'impression que Claire, surtout au début, est à la fois très naïve et en même temps lucide et forte. Comment on peut le comprendre ?
On peut le comprendre, d'après moi, parce qu'on est tous multiples. Vraiment, je pense que voilà, il y a plein de choses en nous. Il y a des choses différentes et des choses qui peuvent paraître contradictoires. Mais finalement, on vit avec. Et c'est quelque chose, justement, qui est très vivant. Effectivement, je pense qu'on peut, en même temps, avoir cette curiosité, une forme d'intelligence et en même temps une grande naïveté pour d'autres choses.
Peut-être de la candeur aussi.
Voilà, ouais. De la candeur. On peut aussi appeler ça une sorte de fraîcheur, etc. Et que tout ça se mêle.
Pour justement donner cette impression qu'elle a vraiment 20 ans et qu'elle, à la fois, elle passe dans l'âge adulte et elle a toujours ce côté un peu enfantin, non ?
Absolument. Ah ouais. Absolument, parce que là, à mon âge, j'ai vraiment dû... C'est là aussi où je dis que c'est un travail sur la mémoire, autant par rapport à l'affaire, puisque voilà, il y a des choses dont je me souviens plus ou moins, mais aussi pour revisiter vraiment cet âge-là, essayer de me souvenir ce que c'est que d'avoir 20 ans dans sa tête, dans son corps.
Donc vous avez retrouvé votre éclair, on peut dire. Ouais.
J'ai essayé.
Et vous avez essayé, bon.
Alors, chers auditeurs d'Aligre FM, je vous propose pour cette pause musicale sur 93.1 une chanson qui est évoquée à la fin du livre. Il s'agit d'une chanson extraite du mythique album Transformers de Lou Reed, qui est sorti en 1972 et qui a été coproduit par David Bowie. Donc, il s'agit de Perfect Day.
Vous écoutez Aligre FM 93.1. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. A perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me. Alors, chers auditeurs d'Aligre FM, vous venez d'écouter sur 93.1 Perfect Day de Lou Reed. Vous êtes en compagnie de Laurence Mouillet dans Philosophie au présent et elle vient nous parler de son dernier roman, La disparue du cinéma, publié aux éditions Mediapop. Alors, peut-être, justement, Michele, tu as une question sur la musique qui est omniprésente dans ce roman.
Oui, absolument. Et alors, imaginez, Laurence... Maintenant, je m'entends, merci. Imaginez, Laurence, que maintenant, vous êtes un compositeur. Donc, quelqu'un qui écrit. Ok, vous êtes passionné de l'écriture. Je précise aussi que photographier, c'est écrire avec la lumière. Donc, c'est toujours cool. Une façon d'écrire. Mais maintenant, vous êtes le compositeur de la soundtrack, c'est-à-dire de la musique qu'on utilise au cinéma. Alors, à quelle atmosphère, à quelle sonorité? Parce qu'ils sont deux passages. Stéphanie a bien dit Lou Reed, qui nous trouvons à la fin. Mais il y a aussi Zombie, The Cranberries, qui est une autre chanson qui me fait beaucoup penser à mon adolescence. Mais comment exprimeriez-vous, d'un point de vue sonore, les atmosphères qui traversent, qui sont en train d'exprimer vos mots, vos lignes, le vécu de Claire et aussi de tous votre personnage.
C'est très difficile de répondre puisque justement il y a énormément d'atmosphères différentes.
Oui.
Et d'ailleurs là, c'est ce que vous avez cité, que ce soit Zombie, on passe de Zombie à Perfect Days. Donc c'est vraiment déjà des moments complètement différents.
Oui.
C'est ça en fait, c'est une succession de moments différents avec peut-être une ligne de fond, une note de fond qui serait laquelle? Alors là,
voilà.
Je n'ai pas la réponse immédiatement. Il faudrait que je réfléchisse.
Mais c'est quelque chose.
Vous avez peut-être une idée.
Oui, j'ai une idée.
Ah, alors donnez-moi.
Je ne sais pas. Non, moi j'ai une idée, mais non, en tant que disons
en tant que lecteur, mais c'est ça qui est.
Oui, mais aussi en tant que compositeur. Mais quand j'étais en train de vous lire, je disais, il y a quelque chose toujours en ligne de je l'appellerais ainsi de profonde inquiétude. Ça, c'est la couleur que j'essaierais. Donc, je ne sais pas, quelque chose d'orchestralement très neutre, en ce sens-là.
Ou une musique répétitive. Un peu
répétitive, mais qui va arriver, qui a des moments de splendeur, d'ouverture immense, on disait la nature, et après qui se ferme. Mais il y a toujours là cette inquiétude qui n'abandonne jamais aussi le personnage de Claire, mais aussi la façon que vous avez utilisé à le dire. Mais
jusqu'à l'ouride, en fait.
Jusqu'à l'ouride, et c'est perfect day, isn't it?
Ouais. Stéphanie. Oui, ouais, mais Perfect Day, ça peut se rapporter à un jour merveilleux d'amour, mais d'après ce que j'ai lu, c'est aussi par rapport à la drogue les hallucinations, etc. Ça fait la transition avec le côté plus sombre aussi de ce livre, hein, parce que c'est quand même l'histoire d'un féminicide, et plus précisément du regard que l'on porte sur le féminicide, hein, celui aussi de l'opinion commune, de la doxa, qui résiste, hein, qui ne veut pas y croire. Et le regard aussi que porte l'institution judiciaire, hein, qui est très présente aussi dans le livre. Alors, à travers cette affaire juridique, ses répercussions sur cette jeune femme de 20 ans, c'est aussi la question, je trouve, qui est posée de l'origine du mal, hein, qui est interrogée. Et comment peut-on faire ça? Et aussi, comment peut-on ne pas le voir, hein? Je trouve que vous posez la question de l'invisibilité du criminel. Hein? Et cette question c'est la question du crime, du mal, hein? Du mal absolu. C'est la question du mal aussi au quotidien, qui est le mal à travers le mensonge aussi. Hein? Donc ça, on en a déjà parlé. Et finalement, j'ai envie de me demander, est-ce que c'est ça que vous avez voulu montrer, ou est-ce que c'est une recherche? Est-ce que cette question, enfin, écrire ce livre, ça vous a aidé à explorer ce qu'est l'origine du mal, justement, hein? Et est-ce que vous pensez aussi que le regard sur quand même un thème dont on parle de plus en plus, à l'époque, je pense qu'on n'en parlait pas comme ça, hein, ce féminicide, est-ce que le regard de la société, des institutions a changé aussi? Voilà.
Oui, alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre.
Oui, j'ai toujours plusieurs questions en une, je suis désolée.
Par rapport à la première question, effectivement, moi, ce qui m'a intéressée vraiment, c'est l'énigme du mal. Mm-hmm. C'est quand même une grande question. Donc, il y a ça, et c'est que, justement, d'incarner cela à travers Claire, qui est confrontée à ce qu'il y a de pire dans la nature humaine. Hein, c'est-à-dire l'extrême violence et et avec cette incompréhension, vraiment. Et parce que ça reste quand même une énigme, le mal. Mm-hmm. Donc il y a cela, et après cette chose aussi très importante qui est effectivement comment les personnes dans l'entourage, en tout cas là de ce cinéma, les collègues, vont se mettre à protéger la personne qui est quand même susceptible d'être l'assassin. Et comment cela se construit? En 1995, effectivement, on ne parlait pas du tout de féminicide. Et moi, j'ai pensé, dès que j'ai fini ce livre, je l'ai relu, et je me suis dit, bon ben voilà, c'est un féminicide, mais en 1995, on n'en parle pas. Donc évidemment, je n'utilise jamais le mot. Mmh. C'est un mot qu'on utilise en fait dans les médias et oui, depuis une dizaine d'années, même s'il existe depuis longtemps. Donc voilà, un féminicide. Et c'est de se dire, ah bah oui, mais en 1995, voilà, c'était une disparition pourtant extrêmement inquiétante d'une femme sur le point d'accoucher. Et bien sûr, toutes les femmes qui ont accouché savent que c'est pas quand on a des contractions qu'on va aller rejoindre son amant ou prendre un bus ou enfin voilà partir en promenade. Et donc c'est se dire, il y a eu énormément de choses. Après, c'est aussi toutes les légendes urbaines, enfin je fais une petite liste, hein, de toutes les horreurs qu'on a pu imaginer. Et je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, le traitement à la fois judiciaire, médiatique et de l'entourage enfin, et la perception de l'entourage aurait été très différente immédiatement. Voilà, bon, c'est un sujet dont on parle beaucoup actuellement et je trouve ça très bien.
Oui,
oui, il est Michele,
ouais. Oui, oui, non, merci en tant que, disons, en tant qu'homme, en ce sens-là, toujours, ça m'est, bon, je suis toujours sidéré, profondément, aussi, disons, triste, mais d'une tristesse, disons, existentielle, en ce sens-là, en écoutant ce qui arrive. Et il y a, maintenant, j'en parlais avec Stéphanie, je crois que c'est une bonne question de la mentionner, il y a une série sur Netflix qui s'appelle Adolescence, non ?
Ah oui.
Et alors, ça a été une expérience, encore une fois, on peut l'appeler de féminicide, je crois. Bon, il y a un adolescent qui a tué, disons, une jeune, très jeune femme de son âge. Il y a encore là une question énorme, c'est-à-dire, encore une fois, quel est le rôle, la culpabilité, qu'est-ce qu'on a fait pour empêcher qu'un tel sujet puisse s'exprimer envers un autre être humain d'une telle façon monstrueuse. Mmh. Et donc, je trouve que là, vous avez fait, encore une fois, fait voir comment on peut relire avec des yeux différents, avec un regard différent, des événements qui se sont passés il y a longtemps. Mais déjà là, il y avait toute la sensibilité pour dire non, il faut changer de direction. Je commente rien ainsi, Stéphanie.
Mmh. Oui, ouais, bah moi, j'allais partir dans une question. Enfin, tu veux peut-être réagir
ou... Non, non, je vous écoute.
Ouais. J'allais partir dans la même direction que toi, justement, sur cette idée que... donc, comment réagir? Et là, on a l'impression qu'il y a une conscience qui se crée en acte à travers Claire, qui se confronte à une réalité extrêmement dure, qu'elle ne comprend pas. Et ses collègues, elle se confronte à ses collègues, à l'institution judiciaire, hein, et elle semble tout le temps être en proie à cet effort pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors elle essaie avec son intuition, elle essaie avec son imagination, et en même temps, elle essaie de décrypter des signes. C'est-à-dire qu'elle est, j'ai l'impression, plus attentive que les autres à certains signes, des signes que peut-être on n'écoute pas trop, mais elle y fait attention et elle comprend en fait ce qui se passe, et on voit que c'est son intelligence aussi qui la sauve, alors qu'elle fait des tas d'hypothèses, qu'elle fait travailler son imagination, mais une intelligence incarnée, bien sûr, et je trouve que c'est très phénoménologique en fait, cet ouvrage. Et d'ailleurs, voilà, elle est à un moment donné, donc il y a des épreuves très dures, quand elle est au commissariat, elle est questionnée, on l'attend au tournant, Elle a mille choses qui se cognent dans sa tête, et à un moment donné, vous dites, je trouve que c'est une véritable trouvaille littéraire, vous dites, page 105, elle passe les mains dans ses cheveux comme pour lisser ses idées. Voilà. Et donc, voilà, on continue, toujours le rapport au corps, hein, mais, et ensuite au tribunal, je trouve que c'est très fort, elle a la tête qui prête à exploser, elle a des pressions de toutes parts, et elle surmonte son angoisse d'un coup, elle comprend d'un coup qu'il y a un piège qu'on est en train de lui tendre, et qu'on aimerait bien qu'elle crache sa haine, elle ne le fait pas contre Lionel, elle s'abstient, hein, et c'est finalement ce qui l'a fait tenir, hein, et voilà, et donc moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette jeune femme de 20 ans devant cette énigme-là, hein, qui reste une énigme, l'énigme du mal, qui est vraiment une grande énigme philosophique, hein. En tout cas, au niveau de l'individu, d'un individu, d'une jeune femme de 20 ans, et je pense que ça nous intéresse tous, comment est-ce qu'on ne bascule pas dans la dépression, hein, qu'est-ce qui permet de tenir quand on se heurte à un monde aussi hostile et qu'on a 20 ans, hein. Est-ce que c'est l'intelligence, l'intuition, l'interprétation des signes, le corps, voilà.
Alors, surtout il y en a plusieurs. Alors, je crois qu'il y a des moments quand même où, justement, il y a des choses qui se manifestent par son corps. Elle dort beaucoup, elle a du mal à aller en cours, elle ne mange quasiment plus, elle fume beaucoup. Bon, voilà. Donc, sans que les mots soient dits, il y a quand même une forme. Enfin, il y a des troubles alimentaires, il y a quand même une forme de dépression, etc. Mais après, en vous écoutant parler, ce que je me disais, c'est que effectivement, ce que je raconte, c'est que elle se rend compte que cette histoire la dépasse. C'est pas juste sa propre histoire, c'est pas son histoire à elle dans son rapport avec ces personnes-là. Ça va bien au-delà. Et c'est ce que j'ai essayé d'explorer, c'est-à-dire dans ce rapport aussi avec la justice, avec comment ça se passe, pour aller et puis jusqu'au procès, qu'est-ce que signifie un procès, etc. C'est que c'était évident pour moi qu'il ne pouvait pas y avoir de pathos, qu'il pouvait ni jugement ni pathos. Et ça, elle le comprend aussi, effectivement, qu'on veut l'emmener vers des choses autres qui seraient l'expression de dégoût, de haine, etc., au moment du procès, de son témoignage, ce qui le rendrait évidemment caduc.
Voilà, donc l'heure tourne, chers auditeurs d'Aligre FM, vous êtes toujours sur 93.1, Philosophie au présent. Nous sommes en compagnie de Laurence Mouillet qui nous parle de son dernier livre, La disparue du cinéma. Et tout de suite, nous allons entendre notre traditionnelle flanosophie, écrite et dite par Michele Saporiti et qui porte aujourd'hui sur l'anticipation et le retard.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Aligre FM, je vous souhaite la bienvenue dans cette petite rubrique de philosophie au présent qui s'appelle Flanosophie, la quasi-science du divertissement intellectuel, qu'aujourd'hui fête son 16e épisode. Et je remercie aujourd'hui Stéphanie Ronchensky, qui m'a aidé à trouver la créativité. Merci Stéphanie. Mais pourquoi fêter la 16e philosophie? Quel drôle d'anniversaire, direz-vous. Alors, essayons de voir les choses autrement, comme le font les philosophes, c'est-à-dire en flânant d'une perspective à l'autre. À vrai dire, on a bien oublié de fêter la 15e philosophie, et en même temps, on est bien en avance par rapport à la 20e. Mais attendez, n'avez-vous jamais fait cette expérience double, d'être en avance, en retard, à propos de quelque chose dans le même instant? Je suis sûr qu'avec ma question, vous venez de deviner la dimension de la temporalité qu'on va explorer ensemble. Aujourd'hui, c'est le temps de flanosopher autour de l'anticipation et du retard. Grande question philosophique. Est-ce que la philosophie est en avance ou en retard par rapport à son temps ou à son époque? Est-ce que la philosophie possède la capacité d'anticiper un changement ou de retarder les effets néfastes des phénomènes qu'elle étudie? Vous voyez bien, cher philosophe, la complexité de toutes ces questions, mais la philosophie aime la complexité et ses défis conceptuels. Voici donc notre manière d'aborder en deux temps le double défi de l'anticipation et du retard. Premier temps, petite philosophie de l'anticipation. N'avez-vous jamais observé un chef d'orchestre? Avec ou sans baguette, le geste d'un chef d'orchestre est toujours accompli en gardant un écart, même minuscule, par rapport à l'effet qu'il souhaite produire. Bref, la synchronie en direction d'orchestre signifie tout simplement retard, et donner un signe à retard ou jouer une partition à retard est un vrai cauchemar. Pouvons-nous appliquer cette idée pour penser une philosophie de l'anticipation capable de maintenir un écart par rapport au déroulement de la réalité? Dans la mesure où la philosophie représente un effort de voir ce que la multitude des individus ne voit pas, ou d'envisager critiquement les conséquences du réel, toute philosophie est une philosophie de l'anticipation, voire une philosophie de l'imagination d'un homme vu ou d'un corps non visible à travers le pli des contradictions de l'existant. Les exemples de prophéties conceptuelles sont innombrables dans l'histoire de la philosophie, mais pour donner un seul exemple, est-ce que Marx n'avait pas réellement envisagé ce qu'un individu est prêt à faire pour acheter un t-shirt en coton microplastique à 1,50€? Second temps, petite philosophie du retard. Je l'avoue naïvement, je suis presque toujours en retard au rendez-vous. C'est comme s'il y avait une force irrésistible qui m'oblige à écrire jusqu'à la dernière minute pour éviter qu'une idée géniale puisse m'échapper. Cette confession, qui n'a rien de la noblesse des confessions de Saint-Augustin ou de Rousseau, nous permet de voir l'architecture d'un retard. Il y a l'attente qu'un événement se produise à un certain point de son temps, dans le temps. Le retard manifeste alors la capacité de provoquer un écart, mais dans une direction opposée à l'anticipation. En ce sens, le retard est une dilatation, un déplacement de la temporalité prévue et prévisible jusqu'au point où le retard introduit une nouvelle temporalité en philosophie, celle de la pensée. Et dans la mesure où la philosophie prend son temps pour observer, pour structurer une analyse par rapport à une idée du présent qui se veut triomphant, sans délai, ralentissement, recul, toute philosophie est une philosophie du retard. C'est-à-dire une philosophie des attentes manquées, du synchronisme critique, une pratique du recul, d'un déplacement en arrière toujours nécessaire. Tout le monde connaît enfin la figure hegelienne de la chouette de Minerve qui arrive toujours au crépuscule. Retarder l'arrivée de la nuit ou anticiper l'arrivée de la lumière d'un nouveau jour. Voici ce que la chouette philosophique est encore capable d'inspirer au flânosoph qui suit son vol.
Voilà, donc nous sommes renvoyés à notre ponctualité et aux horaires. Et il est temps de faire notre traditionnel petit questionnaire irrationnel. Donc, le principe est très très simple. On vous pose des questions très rapidement. Vous devez répondre immédiatement sans réfléchir en une phrase, en un mot. Et c'est Jolane qui va se livrer à l'exercice. Allez-y, Jolane.
Bah d'abord, quel est votre rêve d'enfant ?
Voler.
Qu'avez-vous envie de dire à la jeunesse ?
Faites-vous confiance.
Si vous étiez Premier ministre, quelle première décision aimeriez-vous prendre ?
Le luxe pour tous.
Quel autre métier auriez-vous voulu faire ?
Oh, plein. Ça, c'est difficile. Déjà, j'ai plusieurs métiers. Donc, là, je crois que le métier d'écrivaine, c'est vraiment le métier que j'avais envie de faire. Et voilà. Donc, je me sens à ma place, là.
Formidable.
Quel personnage auriez-vous aimé rencontrer et pour lui dire quoi ?
Ouh là là ! Quel personnage ? Personnage historique.
Historique, oui, vivant ou mort, ou comme voilà, peu importe. Une figure.
Dans toute l'histoire de l'humanité.
Jésus.
Ah, juste. Et pour lui dire voilà. Quoi ?
Jésus, pour lui dire t'es génial, mais tu peux même pas encore imaginer tout ce qu'on va faire en ton nom et au nom de ton père. C'est horrible.
Bon, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a le temps encore une question, parce qu'on va conclure.
Minuscule question.
J'évoque simplement peut-être en une phrase ce que vous avez mis en exergue, un extrait de « Je ne sais ce que je vois qu'en travaillant » d'Alberto Giacometti. J'ai compris plus tard, on ne voit une personne que dans son ensemble que lorsqu'elle s'éloigne et qu'elle devient minuscule. Un mot ?
Oui, j'adore. En fait, déjà, c'est un petit recueil d'entretiens qui a ce titre et c'est un petit livre que j'ai eu pendant des années sous les yeux. Et j'aime beaucoup, en fait, cette idée, je ne sais ce que je vois qu'en travaillant, parce que c'est vraiment dans ma façon d'écrire ce que j'explore, puisque pour moi, l'écriture, c'est vraiment une exploration, quoi. C'est vraiment creuser. On n'a pas le temps. Hein.
Non, mais voilà. Et mais c'est magnifique mot de la fin.
Voilà. Merci. Alors, on doit terminer cette émission et avant tout, je remercie énormément à la technique Armand. Merci beaucoup pour
merci
être avec
Armand.
Nous aujourd'hui. Un grand merci à Laurence Mouillet, la disparue du cinéma, Media Pop Édition.
Merci à vous.
Un grand merci à Stéphanie et à
merci.
Son élève.
Jolène,
grand merci. Et alors, c'est très important de vous rappeler que je vous appelle au don. Parce que Radio Aligre est une radio libre. Et la liberté a un coût, bien sûr. Donc, il faut la soutenir énormément. Vous trouvez toutes les informations sur le site internet de Radio Aligre. Et je vous annonce aussi l'épisode. On peut dire l'épisode ?
L'émission. La prochaine émission. Oui,
de samedi 12 avril, toujours à 16h, qui est l'horaire de Philosophie au présent. Je danse, donc j'existe pour une philosophie dansante. Donc, je remercie encore Armand, qui était notre technicien. Avec Hippolyte Pérez de France Musique et notre camarade Nathalie Perrin, on va explorer la question de la danse. Et alors, les amis, et merci aux nos auditrices et nos auditeurs, à la prochaine fois, et vive la liberté d'Aligre FM, et voilà. Vive le Collège International de Philosophie.
Voilà, merci à tous, belle journée.
Au revoir, merci.
Merci beaucoup Laurence,
merci
Jolane.
Merci.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.